Parole d'auteur. Parole d'auteur. Christophe Hyde.
Il est des livres dont le charme envoûtant tient souvent à l'équilibre, je dirais même à l'harmonie, entre leur sujet et leur style. Cette élégance, cette consonance subtile, je l'ai retrouvée dans le livre de notre invité d'aujourd'hui. Son titre, Les grandes patries étranges, aux éditions Kalman-Lévy, est déjà avec ce titre plein de promesses et d'évasion, il nous indique que l'enracinement n'est pas synonyme de morose immobilité. Dans ce roman, sensuel et sensoriel, Guillaume Cyr mêle de façon magistrale le souffle de l'épique à la poésie. Il a accepté de venir passer une heure avec vous, chers auditeurs et auditrices, pour en parler.
Parole d'auteur. Christophe Hyde.
Bonjour Guillaume Cyr.
Bonjour Christophe.
Soyez le bienvenu dans l'émission Parole d'auteur. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres et Les grandes patries étranges est votre sixième roman, si j'ai bien compris.
Exactement.
Avant de partir sur les pas pour faire connaissance de Joseph Porte d'Or, le personnage majeur de ce livre, j'aimerais faire connaissance avec l'homme que vous êtes, qui décide de devenir écrivain en ce début de 21e siècle. Même si vous êtes par ailleurs universitaire, et alors que le vent souffle dans les voiles des influenceurs, des youtubeurs, des tiktokers. Alors, l'écriture, est-ce que vous l'avez vraiment décidé ?
Eh bien, quand on décide d'écrire, c'est d'abord une façon de lire, en fait. D'écrire, c'est parce qu'on est lecteur. Il y a depuis que l'enfance, pour moi, un rapport particulier avec les livres, avec la phrase. C'est un rapport direct qu'on n'a jamais, par exemple, avec un réalisateur de cinéma, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a travaillé sur un film, alors qu'il n'y a qu'une personne qui a travaillé sur la phrase. Quand on lit la phrase de Rabelais ou de Racine, quand on lit la phrase de Malraux, c'est lui. Malraux a écrit ces mots-là dans cet ordre-là, et j'ai toujours été fasciné par ce qu'il y avait de direct. Et en même temps, plus on lit, plus on se demande comment ils ont fait pour provoquer chez nous telle ou telle sensation. Et le fait d'essayer, avant de compter produire quoi que ce soit, c'est d'abord pour recevoir quelque chose. Le fait d'essayer, ça permet de mieux comprendre les enjeux techniques, qu'est-ce qui s'est passé, la cuisine, la fabrique de ce qui nous émeut tant. Et donc, ce n'est pas pour s'adresser à l'autre, c'est pour recevoir les adresses de ceux qui nous précèdent que on commence à écrire, que le premier geste de l'auteur, à mon avis, démarre. C'est pour ça que tous les auteurs sont d'abord des lecteurs et que tous ceux qui voudraient écrire mais ne lisent pas, ne savent pas de quoi ils parlent en fait, et ne pourront pas le faire à moins d'un témoignage, mais ce sera pas de la littérature. La littérature est d'abord une lecture, et c'est en lisant, parce que j'ai lu, qu'un jour vers 13 ou 14 ans je me suis mis à écrire, et plus j'écrivais mieux je comprenais ce que je lisais, et puis un jour je me suis mis à faire lire ce que j'écrivais chez moi, d'abord secrètement, et finalement je suis devenu auteur, c'est-à-dire lecteur-auteur.
Ça fait partie de votre identité à présent.
Ah oui, c'est le centre de tout même. C'est mon centre, quoi. C'est moi.
Ouais. Et je crois que la poésie, parce que vous parlez de la littérature, et je vous posais cette question au sens large de la littérature, mais la poésie a compté dans cette vocation, d'une certaine manière.
Bien sûr, quand on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, vous savez, quand on pose cette question qui est parfois un peu gênante ou quoi, je réponds, et ça amuse beaucoup les gens à qui je réponds, qui ne peuvent, dans presque 100% des cas, j'ai un rire en face, un rire gentil, hein, mais je suis poète. Avant d'être romancier, avant d'être essayiste, avant même d'être peut-être père de famille ou mari, ou avant d'être un ami, je suis poète, c'est-à-dire que je c'est moi justement, et la langue comme ça, la langue elliptique de la poésie, le ces raccourcis, le langage renégocié, refait, projeté, et chez moi substantiel, enfin c'est ça tient à moi dans ce que j'ai de plus précieux, et donc je dis je suis poète. Alors les gens me disent mais romancier, tu veux dire, ah mais tu donnes des cours à la fac, enfin on a besoin de se rassurer en me demandant ce que je fais d'autre, comme si c'était devenu encore soit ridicule, obsolète ou alors trop sérieux pour ne pas être ridicule. Et pourtant pour moi c'est ni trop sérieux ni ridicule, c'est une façon d'être au monde, d'entendre, de voir, de recevoir une fois de plus, de comprendre, de prendre avec soi, et c'est la mienne, voilà.
Alors, dans cette émission, j'ai l'habitude de mettre de côté des relances pour relancer la conversation. Et j'avais noté ce vers de René Char. Certains jours, il ne faut pas craindre de nommer les choses impossibles à décrire. Il y a quand même quelque chose de dangereux dans cette impossibilité. Vous vous mettez en danger pour essayer d'aller au fond de...
René Char, de cette oui, René Char, c'est mon grand frère, en quelque sorte. Moi, j'ai toujours vu comme une espèce de grand frère avec qui j'ai tant passé de temps que j'ai l'impression de le connaître et de le reconnaître quand je l'entends. Et oui, il y a un danger. Appeler, de toute façon, nommer quelque chose, le baptiser, c'est... Vous savez, quand on dit comment ça s'appelle, appeler quelque chose, c'est l'appeler, c'est lui demander à ce qu'il vienne, à ce qu'il advienne, à ce qu'il intervienne. Et nommer les choses, c'est les faire advenir ou chercher à les faire advenir. Il y a quelque chose de très... les philosophes du langage diraient performatif dans l'acte poétique, qui justement n'est pas de l'ordre du constat. On n'est pas simplement là pour décrire ce qui arrive, mais pour proposer un nouveau champ des possibles, réinventer le sens. C'est réinventer aussi ce qu'on peut faire de logique, et c'est peut-être là le grand projet de l'écriture en général, et sans doute de l'avant-garde qu'est la poésie.
D'ailleurs, dans l'un de vos précédents ouvrages, qui s'appelle « Avant la longue flamme rouge », qui se passe en Asie du Sud-Est, vous faites dire à la mère d'un enfant, qui est professeur de lettres, plutôt elle prend des comparaisons en disant que les mots sont des hameçons envoyés par les poètes pour creuser des sillons sous le soleil, la mer, les cimes de l'Himalaya, les jardins multicolores, les horloges mécaniques. Les mots dansent partout, ils travaillent, ils organisent des batailles.
C'est bien dit.
C'est rien, vous pouvez pas rien rajouter puisque
non.
Vous avez mis ce point final. Alors, puisque vous parlez de poésie et de littérature, j'aimerais qu'on parle de ce nouveau roman. Alors, comme tout bon roman, il y a des personnages qui nous attachent, nous lecteurs, à leur péripétie, à leur destin. C'est le cas de Joseph Porte d'Or. Alors, c'est une question très simple. Est-ce que vous pouvez nous le présenter?
Oui, alors d'abord, donc là justement, on passe de la poésie au roman, c'est un autre exercice, et évidemment dans le roman, d'abord avant de vous parler de Joseph Porte d'Or, je veux dire un mot rapide sur, je pense au lecteur, et le roman, il y a une tension narrative, c'est-à-dire il faut que le lecteur se demande qu'est-ce qui va se passer. Et ça pour moi c'est très important, c'est au service d'une histoire que cette fois-ci les mots se mettent au service d'une histoire. Et donc j'écris ces romans avec des chapitres très très courts, et en m'obligeant à ce que chaque chapitre apporte quelque chose à l'histoire. Et comme ça, le lecteur lit des chapitres qui font 2 pages, 3 pages grand maximum, et il se dit toujours « allez, un de plus » pour savoir ce qui va se passer. « Allez, un de plus » et je le tiens, je le maintiens, je le retiens dans les filets du roman plutôt que de l'envoyer vers Netflix ou je ne sais quelle autre activité, grâce à ça et grâce à cette tension, ce qui est vraiment un autre exercice que celui dont on parlait à l'instant. Et donc Joseph Porte d'Or, il grandit seul avec sa mère parce que son père est mort à la Première Guerre mondiale. Il grandit sur l'île de Tunis à Toulouse, rue du Pont de Tunis, qui était une île vraiment à l'époque, elle ne l'est plus, et il a cette particularité qu'il est très sensible. En touchant les choses, en les goûtant, en sentant leur odeur, il les comprend, il les devine. Par exemple, s'il n'a jamais vu de piano, il lui suffit de poser les mains sur l'instrument pour sentir la laque, le bois, le triple filin d'acier, la ductilité des marteaux de bois qui frappent ce triple filin. Il comprend les objets par l'intérieur. Il touche un mur, il va sentir les failles de la chaux, du ciment, de la pierre, du bois, l'alliage de tout cela. Donc, ce qui évidemment, cette sensibilité pour l'écriture permettait de faire venir comme ça justement les choses dans cette histoire par l'entremise de Joseph. Et Joseph, qui est si sensible, tombe fou amoureux d'une fille qui est sa voisine, qui est l'inverse en quelque sorte, puisque elle a décidé de se fermer à tout. Elle grandit, c'est une jeune juive qui grandit donc elle aussi sur l'île de Tunis à Toulouse dans les années 20, où l'antisémitisme monte.
Elle s'appelle Anima.
Elle s'appelle Anima, qui veut dire l'âme, et qui devient l'âme de Joseph, puisqu'il décide de l'aimer quoi qu'il arrive et pour toujours. Et le roman sera cette histoire d'amour impossible entre cette espèce d'éponge qu'est Joseph et un hérisson, c'est-à-dire une fille presque méchante, dure. La première chose d'ailleurs qu'elle lui dit quand il lui dit qu'il l'aime, c'est « Ah bon, ben, tu vas devoir tuer quelqu'un pour le prouver. » Le fera-t-il ou pas, vous le saurez en lisant « Les grandes patries étranges ». Mais voilà, et donc je voulais que ce rapport-là d'un très sensible face à une carapace lancée dans le XXe siècle devienne une grande et impossible histoire d'amour que j'ai écrite pendant 4 ans.
Ouais, c'est exactement ça que rajouter. Sinon que Joseph Porte d'Or, certes, c'est une éponge, mais il y a son royaume intérieur et il y a son empire extérieur. Il y a cette faille d'un père qui est mort comme des millions d'autres à la guerre et qui lui manque. Et il y a cette, quand il l'apprend, il est écrit, vous écrivez. Il casserait les Pyrénées s'il le fallait, il décapiterait des kaisers à fourrure, incendierait Aix-la-Chapelle. Il en veut à ceux qui lui ont pris son père.
Exactement, il en veut au monde entier et à une guerre. Vous savez, dans la guerre, et c'est vrai que ça fait 2 fois que je parle d'une guerre à travers les yeux d'un enfant, les seuls qui sont restés rationnels, puisque en ce moment on parle beaucoup de guerre d'ailleurs, c'est intéressant de voir, ce sont les enfants, parce que les enfants ne comprennent pas et ils ont raison de ne pas comprendre, car en vérité il n'y a rien à comprendre, et les enfants ont tout d'un coup raison, deviennent les plus lucides, deviennent les philosophes des temps de guerre. Et donc Joseph, dépossédé de son père comme ça, envoyé dans le siècle sans son père, avec sa sensibilité, est interdit comme ça, vengeur, et c'est juste après ces phrases que vous venez de lire qu'il va rencontrer cette jeune fille, et il va faire, comme diraient peut-être des psychanalystes, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais un transfert, c'est-à-dire que de ce désespoir, il va le transformer en espoir. De ce désamour, la perte du père, il va le transformer en amour fou et inconditionnel pour une jeune fille, ce qui va lui permettre de se fonder sur une force positive et non pas négative, et de fonder sa vie sur un espoir d'amour plutôt que sur un amour manqué, volé, dépossédé, et un deuil.
Oui. Et pourquoi avoir choisi le XXe siècle, ce XXe siècle tragique, avec ses morts à Verdun, avec Auschwitz, etc.?
Parce que mon premier sujet dans ce roman, et nous voilà dans la cuisine interne, c'est pas parce que c'est pas forcément évident et tous les lecteurs le voient pas comme ça, mais c'était l'invasion. Quand on tombe amoureux, on se sent envahi par une force positive et en même temps parfois douloureuse. Quand on devient, quand on a des amis, les amis peuvent être envahissants. Quand la famille, l'amour qu'on a pour sa famille devient envahissante. Le chagrin, évidemment, est une force d'invasion, cette fois-ci négative. La détresse, la peur sont des invasions. Et en plus, au XXe siècle, il y a eu des invasions militaires, armées, politiques, qui se passent dans la vie de Joseph en même temps que ces autres invasions que sont l'amour ou le chagrin. Et il y a eu aussi une invasion de la matière, puisque Joseph est très sensible. Les matériaux de construction qui étaient la pierre et le bois principalement ont été petit à petit remplacés dans notre monde par le plastique et le ciment, c'est-à-dire des matériaux de synthèse. Et Joseph voit là une sorte d'invasion nazie, hygiéniste, totalitaire, qui transforme les matériaux en des matériaux impossibles à aimer, impossibles à comprendre. Et je voulais que mon hypersensible et cette histoire d'amour la déploie dans ce siècle des invasions en tout genre, pour montrer aussi comment et pourquoi est-ce qu'on y résiste à ces invasions.
Comme si la modernité et la technique, par son efficacité, éteignait d'une certaine manière une part de l'humanité,
oui,
et de la sensibilité.
Enfin, c'est, oui, c'est ça,
comme
elle
ça
vient
que je l'ai lu.
La raisonner, oui. Et donc, si vous regardez dans le roman, ce n'est qu'une histoire de résistance à l'invasion. C'est-à-dire tous les personnages ont 2 points communs. D'abord, ils sont tous amoureux, ils aiment. La mère de Joseph l'aime infiniment et inconditionnellement, comme une mère aime son fils, Thérèse. Joseph aime Anima. Anima aime son père, puis aimera ceux qu'elle rencontrera plus tard dans l'histoire. Vadim, le poète anarchiste qui sera l'ami de Joseph, aimera son ami inconditionnellement. Ninon, la prostituée astigmate, et aimera Joseph éperdument. Tout le monde aime éperdument sans attendre d'être aimé en retour. Parce que aimer, comme dit la chanson, est plus fort que d'être aimé. Et que le vrai amour, le plus grand, on le sait sur Radio Présence, consiste à donner sa vie pour ceux qu'on aime et à aimer sans espoir de retour, justement. Et donc, ils ont tous ça en commun d'une part, et d'autre part, la résistance à l'invasion qui vient empêcher l'amour d'être vécu. Chacun résiste. Alors, pour des raisons parfois loufoques, et ça, c'était important pour moi que ce soit aussi drôle, le roman, le poète anarchiste par exemple, résiste aux Allemands parce qu'il ne les trouve pas drôles et il n'accepte pas d'être envahi par un peuple qui n'est pas drôle. Joseph résiste aux Allemands sans se poser de questions, non pas pour des grandes raisons sociopolitiques ou idéologiques, mais parce que simplement il est amoureux d'une juive et il pense que les Allemands viennent exprès pour l'empêcher de vivre son histoire d'amour et que cette invasion n'a pas d'autre but. C'est pour ça qu'il résiste. On a un prêtre qui est communiste, qui cache des armes, qui lui résiste simplement parce qu'il pense que le climat insurrectionnel permet de continuer à vivre sa foi correctement et donc à aimer Dieu.
Quelle galerie de portraits.
Voilà, une maquerelle. Et évidemment, j'espère que vous avez aimé ma maquerelle résistante qui, elle aussi, résiste par amour pour le genre humain tout son cœur.
Et même quand le tragique arrive, il y a ce moment hilarant, pour tout dire, à la fin du roman où il y a un officier nazi qui vient arrêter justement cette mère Maquerel, et il est écrit: l'absence d'accent laisse penser qu'il s'agit d'un de ces Allemands cultivés, européens sans Méditerranée. Ils ont appris le français en lisant Racine, Pascal et Malherbe. Jamais une faute d'accord, des phrases bréhaignes, conjonctionnées au fil à couper le beurre, rien qui dépasse. Et ensuite, vous vous amusez à jouer de l'incompréhension, de l'implicite et de l'ironie de la langue française pour cet homme qui connaît certes les mots mis bout à bout dans des phrases, mais qui au fond passe à côté totalement de l'esprit français.
Exactement, je me suis beaucoup amusé. Alors, j'ai calé le certains personnages, notamment la maquerelle et le poète anarchiste là, sur un trait d'humour de Blondin qui éclaire ce genre de personnage qui me fait beaucoup rire. On demande à Antoine Blondin pourquoi est-ce qu'il était agrégé de philosophie et qui ensuite est allé faire l'andouille sur en buvant beaucoup d'alcool sur le Tour de France avec Yvette Horner pour l'Équipe. On lui dit: mais pourquoi vous étiez agrégé de philo, pourquoi vous avez arrêté la philosophie, Monsieur Blondin? Et il répond: parce que la philosophie, c'est comme les Ardennes. C'est obscur, c'est vaseux, et il y a trop d'Allemands. Et alors, je me suis dit, ben ça, c'est exactement cet humour blondinien que je voulais pour mes personnages, notamment ma mère Maquerel, puisque Joseph, on a oublié de le dire, cet hypersensible, grandit avec une mère qui l'aime infiniment et dont le métier est de faire le ménage, consiste à faire le ménage dans un bordel. Et donc il grandit au milieu des femmes, sa mère, la mère Maquerel, les prostituées, et dans un monde d'odeurs, dans un monde de matière, dans un monde de tissus, dans un monde de bougies, d'alcôves, de lumières ténébreuses. C'est là qu'il grandit petit à petit et qu'il exerce sa sensibilité.
Bien, puisque vous avez parlé des Allemands, on reviendra à la vie de Joseph Portedor, mais puisque vous avez parlé des Allemands en des termes, bon, qui sont ce qu'ils sont, je vais quand même vous en faire écouter un. Robert Schumann qui nous donne Trümmerei, Kinderzeiten, opus 15, numéro 7, par Lang Lang. Thank you.
Parole d'auteur. Christophe Hein.
Nous sommes de retour avec Guillaume Cyr, qui est venu nous parler de son dernier roman, Les Grandes Patries étranges, paru chez Kalman Levy. Alors, pour reprendre notre entretien, nous parlions de l'Allemagne et des Allemands et nous avons écouté Robert Schumann, le seul compositeur allemand qui agrée aux oreilles françaises de vos personnages. J'aimerais m'arrêter un instant parce que c'est vrai que l'antagonisme entre la France et l'Allemagne est très présent dans votre livre, mais bon, c'est le XXe siècle qui veut ça. Comment c'est arrivé ? Naturellement par la mort du père qui meurt dans les tranchées, ça c'est sûr.
Évidemment, et puis bon, c'est vrai que c'est l'époque, mais surtout quand on entend ce qu'on vient d'entendre. En fait, Anima, dont on a encore assez peu parlé, sinon pour dire qu'elle était dure, est une pianiste, la voisine de Joseph Porte d'Or sur l'île de Tunis, dont il est amoureux. Et elle pense, et c'est pour ça qu'elle n'a pas le temps pour les histoires d'amour, elle pense que si elle joue suffisamment bien Schumann, et qu'elle le joue tellement bien, qu'elle le fera préférer au quasi exact contemporain de Schumann, qui pourtant n'a rien à voir, qui est Wagner, que grâce à son jeu à elle, les Allemands préféreront Schumann à Wagner, c'est-à-dire, pour faire vite, parce que je ne suis pas musicologue et je vais faire hurler les musicologues, mais la mélancolie à la fureur, tiens, pour faire un petit jeu de mots, si, alors le monde sera sauvé. Et que cela, au lieu de dire que ça dépend des autres, de la médiation musicale, des autres compositeurs, des autres interprètes, elle dit ça ne dépend que de moi. Je peux sauver le monde. Si je fais sonner bien la note, tout le monde réentendra Schumann, comme le monde entier réentendra cette mélancolie-là, ce contre quoi elle nous met en garde, cette mélancolie, le pouvoir de cette mélancolie-là. Et on ne pourra plus être nazi. Le monde sera sauvé, les bottes seront enlevées, le soleil redeviendra doux. Et elle le croit de toutes ses forces, elle est obsédée par ça, car elle veut sauver d'ailleurs la musique allemande, hein, la trinité de la musique que sont Mozart, Bach et évidemment Beethoven. Après le romantisme allemand, elle se dit je dois sauver ça des mains des nazis, et en sauvant ça on sauve l'Allemagne, on sauve l'Europe, on sauve le monde. Et ce n'est pas un livre pour critiquer les Allemands.
Ça l'emmènera d'ailleurs jusqu'à Coblence.
Ça l'emmènera jusqu'à Coblence, la ville des châteaux forts. Et évidemment, c'était tellement douloureux pour ceux qui aimaient tant la culture allemande de la voir se nazifier au XXe siècle, que la tension était une tension d'autant plus forte qu'il ne s'agissait pas de s'opposer aux Allemands, mais de sauver les Allemands de l'erreur et de s'opposer à l'erreur dans laquelle ils plongeaient dans un désir d'assainissement, dans un désir romantique étrange et haineux petit à petit. Et donc elle est obsédée par ça, et donc Joseph l'aime, elle est juive, donc évidemment ça va être d'autant plus difficile. Et tout cela nous emmènera de Toulouse jusqu'à Coblence, la ville des châteaux forts sous la neige, dans des scènes que j'espère épiques.
Mais oui, mais en effet, avant de partir à Coblence, restons à Toulouse, et parce que vous êtes un écrivain toulousain, vous êtes natif de Toulouse, si j'ai bien lu.
Tout à fait.
D'ailleurs, oui. Dans une interview que vous avez donnée au Point l'an dernier, on apprenait que l'un de vos aïeux serait Capitoule.
Était Capitoule, oui, tout à fait. Très un Ferluc, oui.
Très bien. Donc voilà, c'est au niveau. Vous avez des racines. Et vous écrivez Toulouse. Et moi qui ne suis pas toulousain, je suis un étranger, je viens du Nord, je viens de la proximité du Rhin. J'ai découvert Toulouse, mais c'est un Toulouse de poète. C'est-à-dire que quand Anima entraîne Joseph dans les rues de Toulouse, bien on entend, vous écrivez, « Des silhouettes ont envahi les terrasses des Carmes, sur l'avenue de la gare, les fraises des cigarettes rougeoient au milieu des épines d'ombre. » Les tilleuls de la rue Ozène devant la tour de l'hôtel Dahu penchent leurs corps de pépés infernaux. Bientôt, les voilà dans le quartier des Chalets, rue de la Concorde, où la ville est calme et bête. Ben, j'ai envie d'y retourner. D'aller me promener.
Ben, tant mieux, tant mieux. Ben oui, en fait, je n'ai jamais écrit sur Toulouse avant cela. Et je voulais attendre d'être prêt pour des raisons techniques d'écrire un roman à Toulouse, parce que quand on parle de chez soi, en fait, c'est là que par trop d'affect, parfois la technique manque et on rate son coup. Et il y a rien de pire quand vous voyez, vous êtes un peintre, j'imagine, et puis tout d'un coup, un jour, vous dites bon, allez, ça y est, j'ai la bonne technique, je vais faire un portrait de ma femme ou de ma mère, et puis vous le ratez complètement. Vous dites ah mince, j'aurais dû attendre de progresser encore un peu avant de faire ce ratage. Bon là, j'avais ce genre de crainte, et donc je voulais attendre d'être prêt. Et après avoir parlé de l'Asie, du Cambodge, après avoir parlé des Corbières, là je me sentais prêt, donc j'ai enfin décrit Toulouse, et surtout j'ai décrit la rue du Pont-Tounis où Joseph et Anima donc grandissent, la Dalbade, le quartier de la Dalbade où j'ai moi-même grandi, car j'ai grandi au 6 rue du Pont-Tounis, exactement là où vit Joseph. Et à l'époque de Joseph, contrairement à la mienne, c'était une île encore, puisque ce qu'on appelle aujourd'hui la Garonnette, qui a été comblée, qui maintenant est une rue, était autrefois vraiment un petit bras de Garonne qui isolait cette île. Et donc j'imaginais, puisque j'avais une voisine, par exemple une vieille dame quand j'étais enfant, qui avait connu l'époque encore où les immeubles avaient les pieds dans l'eau et où on pouvait pêcher depuis sa fenêtre. Et donc, là encore, écrire un roman à cette époque-là, dans ma rue, sur mon île, si je peux dire, c'était pour moi retrouver les mots, les phrases, projeter mon enfance, mes délires d'enfant aussi, dans cette Toulouse de briques, de tuiles, de clochers, d'ouverture parfois surprenante, dans cette Toulouse romaine, mais aussi visigothique.
Et dans cette Toulouse, il se passe un événement majeur le 11 avril 1926.
Exactement. Un événement que peu de Toulousains connaissent ou qu'ils connaissent mal. Dans la nuit du 10 au 11 avril 1926, à Toulouse, il y avait un clocher de 83 mètres sur la Dalbade, énorme. Allez voir des photos sur Internet. Vous verrez, Toulouse n'avait pas le même visage. Et ce clocher s'est effondré dans la nuit. Il n'avait pourtant que 50 ans, donc c'est une malfaçon qui ne date pas des siècles. Et il est tombé en pleine nuit, dans la nuit du 10 au 11 avril. Il a tué deux boulangers, qui sont les deux seuls personnages vrais de mon roman, puisqu'ils sont nommés Pascal et Anne Denax. Leur fils Michel a été blessé et s'est retrouvé orphelin cette nuit-là. Et on a eu 8 autres blessés, donc 11 victimes au total. 11 victimes pour lesquelles nous avons planté, les Toulousains, les 11 micocouliers, qui sont sur le square Henri de Gorce, que vous pouvez voir quand vous allez près de la Dalbade. Il y a 11 micocouliers pour les 11 victimes. Et donc, évidemment, mon roman, je me demande si je ne suis pas le premier romancier à mettre cet événement cataclysmique dans un roman, à raconter la chute, l'effondrement du clocher de la Dalbade. Imaginez, Joseph Porte d'Or, comme il est très sensible, se sent coupable, parce que s'il avait bien touché, ausculté le clocher, qui était comme un phare au milieu de son quartier, alors il aurait pu sauver le couple de boulangers qui donnait à ce quartier une odeur de pâte à pain, presque comme si le décor chez lui se mangeait.
Bon, c'est une déclaration d'amour à Toulouse.
Mais bien sûr, c'est une déclaration d'amour à Toulouse, tout à fait. C'est une ville où j'ai aimé grandir, m'enraciner, et apprendre à parler, justement.
Et Toulouse, on le retrouve aussi, alors ça, je vais inviter les auditeurs et les auditrices à s'y rendre, sur, alors je déteste ce mot, c'est plutôt un blog, mais moi je préfère parler de carnet poétique numérique dans votre cas, que vous avez intitulé « Ce qu'il reste des brumes ».
Oui.
C'est un endroit que je visite depuis que je vous ai lu, où vous organisez, enfin, alors C'est, je vous laisse définir parce que c'est chapitré. Il y a des chapitres. C'est au quotidien, peut-être.
Enfin, je sais presque pas comment au vous... quotidien.
Presque au quotidien. Et puis il y a des chapitres, mais il y a un chapitre Toulouse, notamment.
C'est vrai, mais ça me fait plaisir que vous parliez de ça. C'est rare qu'on m'en parle parce que comme ça n'a pas d'horizon économique, souvent on le tait. Mais en réalité, moi, j'écris tous les jours. C'est ma façon de respirer et d'entendre, comme je vous le disais plus tôt. Et donc, et le cœur même de cette pratique-là est d'abord la poésie. La poésie, à quelques exceptions près, n'a pas vraiment de marché. Alors, je publie quand même mes poèmes chez Fata Morgana, mais il y en a tant d'autres que je publierai pas forcément sur papier. Que de toute manière, c'est pas ça le but. Et le but, c'est toujours d'entendre. Mais je le laisse comme ça en public. Enfin, il faut quand même le publier, quoi. Il faut que ce soit un lien possible, même s'il n'est pas toujours avéré. Et le numérique permet ça. Et donc, j'écris presque tous les jours sur ce qu'il reste des brumes. Vous voyez, c'est les brumes du matin, les brumes qui se lèvent. Qu'est-ce que, à la fin, quelle silhouette elle dessine. Et donc, j'écris des petits textes, des fictions, des descriptions, des poèmes beaucoup, des prières aussi, et des descriptions de Toulouse, c'est vrai. Il y a une catégorie toulousaine.
Tout à fait.
Merci de la nommer. Oui.
Écoutez, pour reprendre notre souffle, nous allons faire une deuxième pause musicale. C'est une pause que vous avez choisie. Il s'agit de Damien Saïez qui chante « La beauté du cœur ».
Tous les utopistes et à tous les rêveurs, tous les fraternels de ce monde, à mes frères anarchistes, à la beauté des fleurs, cette petite fille sous les bombes, dessinons une étoile comme une destination, créons de sa plume orpheline, ses jambes bras ouverts qui offrent l'horizon aux yeux de ses enfants de l'exil. À celui qui héberge, celui qui va sans toit, aux migrants accueillis en chemin, aux soignants tenant main, à celui qui s'en va, aux mendiants à l'offrande du vin, à l'alcool partagé, à celui qui a froid, à celui qui offrira son pain, à ces gens dont la vie reste le seul combat, celui dont survivrait le destin. À celle qui donnera le sein à l'orphelin, à ceux dont le seul Dieu est partage, à la mère pardonnant un jour à l'assassin de son enfant sachant le naufrage, que la haine fait ici quand sonne la vengeance, celui dont le cœur reste amour, à ces âmes éclairées qui n'ont pour seule violence que les larmes à leurs yeux en tombeau, à l'animal courant droit vers le sacrifice, sa vie pour sauver son maître, à celui se jetant encore dans le précipice pour remonter le corps d'un autre être, à celui dans les flammes qui sacrifie sa vie pour tenter de sauver un berceau, à l'oiseau dont les ailes blessées par le fusil recouvrent leur envol pour là-haut, à ces chants de marins, la nuit venant du large, à mitrin qu'on nous vint nos sanglots, c'est à l'encre des yeux que s'écrivent nos pages, aux mémoires de ce parti là-haut, aux étoiles éclairant l'univers de la nuit, des prénoms et de nos amis morts, à ces soleils toujours faisant naître la vie, des ténèbres en accouchant l'aurore, au partage de l'avoir pour la beauté de l'être, puisque c'est notre histoire malheureuse. Toujours la lutte entre l'être ou bien le paraître, entre le milliardaire et le gueux. À celui dont la gloire lui se compte en offrant rien plus grand nombre de diamants. À ces gens qui n'ont rien que leur propre viande, si tu savais comme leur cœur est grand. À ces adolescents pavés contre matraque pour lever vers le ciel tête haute à la mort, ces fous magnifiques, la rose face au char, au corps des disparus de ces navires sans port, qui seuls face au naufrage bravant tous les typhons, dans la brume soudain aperçoivent une plage, à celui dont l'amour le laisse sur un carrefour, comme on laisse une balise, comme on laisse un bagage, à la femme violée redécouvrant tendresse, ces enfants battus découvrant la caresse, quand l'amour vous offre la délicatesse, croyant sans église, redécouvrant la messe, à toute l'humanité dans ce mouchoir tendu, à celui dont les yeux s'inondent sous les crues, contre tous les outrages, contre toutes les moqueries, il n'est pas de plus grand courage qu'être gentil. Il n'est pas de plus grand courage qu'être gentil. Il n'est pas de plus grand courage qu'être gentil. Contre tous les outrages, contre toutes les moqueries. Il n'est pas de plus grand courage qu'être gentil.
Parole d'auteur. Christophe Heine.
Nous sommes de retour avec Guillaume Cyr, venu parler des grandes patries étranges, paru aux éditions Kalman-Lévy. On vient d'écouter une chanson de Damien Saïès qui chante La beauté du cœur, que vous avez choisi, Guillaume. Alors, pourquoi ce choix ?
Ben, je l'ai choisi pour deux raisons. D'abord, parce que je pense que c'est le plus grand poète, chanteur vivant, qui est sorti de tous les circuits classiques parce que, comme il l'a si bien dit, il voulait pas finir en sonnerie de téléphone. Et que ça me fait un plaisir fou de l'entendre, parce que je pense que c'est un immense artiste qu'on connaît beaucoup pour Jeune et Con, le tout début, mais il faut entendre la suite, voir les évolutions que ça a eues, qui sont magistrales. Et en plus, cette chanson en particulier, pourquoi je l'ai choisie? Parce qu'elle va bien avec mon roman Les Grandes Patries Étranges. Elle se termine par ces belles phrases que vous avez entendues. Il n'y a pas de plus grand courage que d'être gentil. Et la douceur, la gentillesse, c'est la vertu des forts. C'est pas la mollesse ou la naïveté. Être gentil dans un monde où rien n'y oblige, rien n'y force, et même tout vous en empêche, où ça devient irrationnel d'être gentil, il faut se battre, il faut être nietzschéen, il faut être surhumain, justement, il faut piquer la place du voisin, le pousser, le flatter quand il est plus fort. Tout d'un coup, être gentil, avoir cette gentillesse gratuite, cette pure charité, c'est peut-être l'acte le plus courageux qui soit. C'est ce que j'essaye d'apprendre à mes enfants, et je pense que celui qui nous l'a appris d'abord, c'est la personne crucifiée dont la présence et le non-présence de votre radio témoignent, et que colporter ce message, continuer à le vivre, c'est le plus grand courage possible. Voilà. Et c'est le courage que je voulais pour Joseph Porte d'Or. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et c'est ce qui m'a fait choisir cette chanson de Damien Saez. Il n'y a pas de plus grand courage que d'être gentil.
Bien. J'aime à penser que les auteurs offrent à leurs lecteurs, dans leur livre bien sûr, mais à travers les incipits ou les épigraphes, une phrase mise en exergue donne des indices sur les racines de leurs intentions et sur les origines, l'origine du roman et leur intuition. Et je voudrais, puisqu'on parle de poésie, Damien Saïez, revenir un peu au titre, parce que ce titre, il a une origine, il a une source, qui est celle d'un vers de Benjamin Fondane.
Oui. Alors, Benjamin Fondane, qui a été un peu oublié, qui est mort à Auschwitz en 1944, était un poète roumain, mais qui écrivait en français. Et au début, mon roman s'appelait Joseph Porte d'Or. Donc, c'était mon Joseph hyper sensible, comme ça, un peu... vous voyez, je voulais faire un personnage qui ressemblait, mais en positif, au personnage que beaucoup de lecteurs sans doute connaissent, qui est Jean-Baptiste Grenouille dans Le Parfum, qui, en sentant les odeurs, et avec tout ce jeu sur les odeurs dans ce roman éblouissant, peut deviner les choses, deviner la vérité des âmes, deviner ce qui va se passer.
C'est un roman allemand.
C'est un roman allemand, et de quelqu'un qui est venu s'installer à Montaulieu, pas loin d'ici. Patrick Soskin, vous savez, vit non loin d'ici. Il a quitté l'Allemagne. Et surtout, c'est un roman à propos d'un serial killer. Qui n'a pas d'âme, et c'est pour ça qu'il n'a pas d'odeur. Moi, c'est l'inverse. Je voulais une sorte de Jean-Baptiste Grenouille, mais qui, lui, avait trop d'âme plutôt que pas d'âme. Et ça, c'était le, donc ça s'appelait Joseph Porte d'Or. J'avais trouvé que ce nom lui allait bien. Et finalement, pendant que j'écrivais, j'ai trouvé ce poème extraordinaire qui s'appelle Ulysse de Benjamin Fondane, que j'ai lu, où il compare l'exil du peuple juif à l'odyssée d'Ulysse. Et je suis tombé sur ces vers qui disent parmi les massacres d'oignons, dans parmi les massacres
parmi
d'oignons,
le cuir fin des oranges.
Parmi le cuir fin des oranges, parmi les massacres d'oignons, je touche absurde compagnon aux grandes patries étranges. Ce qui était exactement l'idée de mon personnage, c'est-à-dire l'idée qu'en touchant quelque chose, une seule chose, même une chose qu'on a prévu de jeter à la poubelle, une pelure d'orange, en la touchant bien, en se rendant disponible à elle, en étant attentif, on accède comme à un arrière-monde, à une substance commune à tout. Depuis l'étang, on va vers l'être, diraient les philosophes. Et Joseph, tout mon roman est porté par ce projet de sensibilité, cette expérience sensorielle, et donc est résumé parfaitement par ces vers de Benjamin Fondane, où il y a une erreur, figurez-vous, puisque les trois premiers vers sont de 8 pieds, alors que le vers qui donne mon titre, aux grandes patries étranges, n'en fait que 7. Donc, si on l'avait pas emmené à Auschwitz, il aurait peut-être eu le temps de le relire et de le corriger, oui. Ou non, peut-être que c'est une erreur volontaire. C'est beau aussi qu'il y ait des erreurs, que les vers ne soient pas toujours parfaits, et c'est du vers imparfait que mon titre, que moi je trouve parfait, a été tiré.
Alors, vous parliez de Benjamin Fondane et de cette expérience sensorielle. C'est une expérience qui est presque enfantine. Avant la longue flamme rouge ou dans les grandes patries étranges, mais aussi dans Réel, on retrouve l'enfance, son esprit, ses divagations, sa pensée magique, sa perception première d'éléments communs et parfois tragiques à l'existence. Est-ce qu'il y a de ça un peu aussi dans...
Oui, en fait, il y a de ça, et surtout l'enfance, c'est l'âge littéraire par excellence. Pourquoi ? Parce que quand on est un enfant, on apprend à parler, et donc à nommer les choses. Et c'est comme si vous étiez dans un jeu vidéo où vous pouvez acquérir de nouveaux pouvoirs, où vous pouvez acquérir de nouveaux pouvoirs petit à petit dans un jeu vidéo, parce que vous, en acquérant de nouveaux mots ou de nouvelles fonctions grammaticales, vous pouvez tout d'un coup nommer de nouvelles choses et vous déplacer autrement dans le monde, les désigner, les demander, leur demander quelque chose. Et donc, finalement, l'expérience littéraire, c'est celle-là. Et donc, les enfants, se mettre à hauteur d'enfant pour l'auteur, est toujours la possibilité comme ça de jouer sur un double tableau avec une sorte de disponibilité du lecteur qui a presque un côté enfantin. Quand on est un lecteur et qu'on ouvre un livre, même s'il n'y a pas d'histoire d'enfant dans le livre, au moins dans les premières pages, on est comme un enfant. On regarde, on essaye de comprendre quels personnages vont être important, qu'est-ce qu'ils disent, comment ils parlent, qu'est-ce que veulent dire les mots. Vous voyez, on est comme un enfant lancé dans une pièce quand on est lecteur. Et donc, il y a un jeu de cet ordre-là. Il faut nommer les choses, mais pour ça, il faut trouver comment les nommer, il faut savoir comment elles s'appellent. Et il y a un jeu quand on est auteur, il y a un jeu quand on est lecteur, qui ressemble à des jeux d'enfant à la fin, pour quelque chose qui n'est pas forcément un sujet enfantin, mais qui provient d'une énergie qui nous a été donné et qui continue à faire écho en nous dès l'enfance.
Très bien, c'est très clair. Nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Vous serez au Marathon des mots 2025 qui se tient du 24 au 29 juin. Je pense que nos auditeurs et auditrices, les lecteurs intéressés, pourront venir assister. Alors, je ne sais pas si vous savez encore sous quelle forme se tiendra et à quel endroit se tiendra cette rencontre.
Non, je l'ignore. Je ne sais pas, mais je tiens beaucoup au Marathon des mots, donc je suis content d'y aller.
Je renvoie nos auditeurs à suivre sur le site du Marathon des mots. Et puis, j'aurai une dernière question. Comme vous l'avez constaté, je ne suis pas une intelligence artificielle, et les questions que j'ai forgées moi-même, sans l'aide de cette intelligence artificielle, sont parfois bancales, et mon interview elle a quelques faiblesses. Mais vous, en tant qu'écrivain, concernant les menaces qui planent avec cette IA sur l'art, sur votre art, que ce soit la littérature ou la poésie, est-ce que vous vous sentez menacé ? Un peu comme Joseph Porte d'Or se sentait menacé par l'efficacité du béton, se sentait menacé, ou comme Michel de Naxx avec son hôpital, d'une efficacité terrible.
Oui, je me sens menacé par l'hygiène et l'efficacité, ça c'est vrai. En revanche, je pense que la poésie n'est pas menacée, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas amoindrie, elle sera peut-être tuée, mais dans ce cas-là, d'un coup, d'un seul. C'est-à-dire que jamais une intelligence artificielle ne pourra écrire quoi que ce soit de recevable, parce que l'activité d'écrire procède d'abord d'un étonnement. Vous savez, il y avait un grand livre comme ça qu'on a un peu oublié aussi, qui s'appelait Les Étonnements de Guillaume Francoeur. Et l'intelligence artificielle est une machine à répondre, mais elle n'est pas une machine à questionner le monde. Elle ne s'étonne pas, elle ne dit pas tiens pourquoi. Elle répond au pourquoi, mais elle ne dit pas tiens pourquoi m'as-tu abandonné. Elle ne pose pas cette question-là. Et la littérature est là pour dire pourquoi m'as-tu abandonné. Elle n'est pas là pour répondre, elle est là pour muscler la question. L'intelligence artificielle est incapable, un, de poser la question, deux, de la muscler, puisqu'elle n'est pas capable de la poser. Donc finalement, c'est bien qu'elle nous aide à répondre à ceci ou à cela, pourquoi pas, mais dans rien d'essentiel, elle n'aura un rôle, jamais.
Bon, je vous écoute, je bois vos paroles et je souscris.
Merci d'y souscrire.
Écoutez, chères auditrices et auditeurs, vous avez compris que le livre de Guillaume Cyr, Les Grandes Patries étranges, paru aux éditions Calmann Lévy, réjouira les amoureux d'une littérature généreuse, riche d'aventures et de sensations. Guillaume Cyr, il n'économise pas les mots, il les lit dans un style époustouflant d'élégance et de maîtrise. Excusez-moi d'être dithyrambique. Et dans votre livre, il est question d'amour, d'absolu engagement, de salut et de rédemption. Enfin bref, voilà, pour moi, je l'affirme, c'est un grand livre. Merci Guillaume Cyr d'être venu au micro de Parole d'auteur.
Merci à vous.
Merci beaucoup à Yannick Galupini pour son aide technique. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Présence ou sur les podcasts. À bientôt pour une prochaine émission.